Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement, ce matin, faut pas pucer. Gérard Pagès, vous êtes agriculteur, éleveur. Dans quelle réalité vivez-vous ?
La réalité, il y en a plusieurs. Il y a une réalité, ce qui nous semble être ce qu'on voit. Et puis il y a aussi la réalité administrative, c'est, semble-t-il, celle qui fait autorité, mais qui n'est pas réelle. Donc quand on déclare des surfaces à la PAC, on doit, sur une photo aérienne, dessiner les parcelles et désigner à l'intérieur ce qu'il y a comme culture. Et donc évidemment, on est subventionné en fonction des surfaces de tels végétaux, du blé, de ceci, de cela. Et donc les surfaces des photos aériennes ne sont pas les mêmes que les surfaces du cadastre. Et la déclaration avant se faisait sur le cadastre. Quand le contrôleur vient, il va au bord des parcelles avec son GPS et les surfaces ne sont pas les mêmes que les photos aériennes. Et à plus forte raison, celle du cadastre. Et dernièrement, les systèmes de projection ont changé et l'échelle et le calcul font que les surfaces sont encore différentes. Donc, ma réalité du champ que je vois dessous là, elle est un peu semblable, il est un peu toujours pareil. Par contre, la réalité de la grandeur de cette parcelle au niveau administratif sans cesse varie. Et donc, voilà. Cette réalité-là, c'est elle qui commande. Et c'est dur parce que c'est eux qui ont raison, quoi. C'est eux qui ont raison et c'est quand même le règne de l'arbitraire, quoi.
Et dans ce règne de l'arbitraire est arrivée enfin l'arme ultime, celle qui va permettre de tout remettre en place, la puce RFID, puce électronique.
Je ne sais pas si c'est l'arme ultime, en tout cas c'est celle qui nous fait pousser des boutons. La puce RFID, elle a été soumise, accompagnée et peut-être même proposée dans un but d'avoir une certaine reconnaissance par la profession. Alors la profession, elle est diverse. Hein. Il y a des élevages très gros et puis il y a des élevages plus petits, évidemment. Et la représentation de la profession, évidemment, elle est faite par les gros élevages. Et parce que la production d'ovins, viande est sinistrée, c'est peut-être une des plus sinistrées depuis longtemps. Donc la profession est à la recherche d'une peau un peu neuve. Et elle a accompagné cette réforme de l'identification avec maintenant la pose de puces électroniques dans un but d'une certaine reconnaissance, de peut-être faire en sorte que la production aille mieux, qu'elle soit mieux reconnue par les pouvoirs publics ou je ne sais, ou par les marchés, parce qu'ils font des efforts, quoi, notamment en termes d'identification.
Et vous avez créé le collectif Faut pas pucer. Sébastien Delpech ?
Ce collectif Faut pas pucer, dès le début, il a existé en dehors des syndicats agricoles et de toute autre organisation agricole. Et en plus, il ne regroupe pas que des éleveurs. Pourquoi ? Parce que nous, les quelques éleveurs du groupe, de toute façon, ne se reconnaissent pas dans cette profession, ni dans les syndicats qui y sont présents.
Comment est né ce collectif Faut pas pucer, Michela Di Carlo?
Le collectif naît au moment où il y a de la tension portée par les éleveurs sur la question de la vaccination contre la fièvre catarrhale. Et c'était un peu un moment fédérateur pour nous, parce qu'on a commencé à discuter de cette obligation. Parmi nous, il y avait des gens qui s'étaient déjà posé la question du puçage des animaux, qui allait devenir obligatoire pour les ovins et pour les caprins. Et c'était à l'occasion de discussions sur la vaccination qu'on a commencé à amener aussi le problème du puçage, en disant qu'il y avait un lien entre ces deux moments, et notamment le fait de la dépossession du métier, des choix à faire, d'une relation avec l'animal qui se déplaçait, qui était gérée par AO, par quelqu'un d'autre. Et donc, à ce moment-là, on était des éleveurs et des gens qui n'étaient pas du tout éleveurs. Et quand la tension sur la question de la vaccination a commencé à fléchir, le groupe s'est complètement recomposé et refaçonné autour de la question du puçage principalement.
Vous vous êtes installée depuis longtemps, Anna Labrousse?
Moi, je me suis installée en 91. Et j'ai des brebis depuis, je ne sais plus, 97.
Vous aviez choisi les brebis?
Ben oui, c'est surtout l'élevage, en fait. Les brebis ou des vaches. Mais c'est l'élevage que j'aime bien. Ouais, le contact avec les bêtes, vivre au milieu des bêtes. Et... C'est ça qui donne du sens un peu pour moi.
Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes ralliée à ce collectif Faut pas pucer?
Mais en fait, moi, mes brebis, donc, à un moment donné, il a fallu donc les identifier. Et jusqu'à présent, donc, on mettait des boucles avec des numéros, et là, d'un seul coup, on apprend qu'il faut mettre des puces, en plus des boucles donc électroniques. Pour moi, c'est pas du tout la même chose, quoi. Les boucles électroniques, c'est vraiment le stade supérieur où d'un seul coup, on a l'impression que nos brebis deviennent des machines, quoi.
Comment est-ce qu'elles deviennent des machines?
Eh bien, forcément, il y a quelque chose entre elle et nous, quoi. Il y a cette puce qui vient faire écran, quoi. On peut pas avoir le même rapport qu'avant, quoi. C'est comme quand on est devant un écran télé, devant un écran informatique. On n'a plus un rapport direct avec la personne qu'on a en face ou avec la bête qu'on a en face. Il y a quelque chose qui nous renvoie indirectement. Voilà, c'est le rapport, il est changé, il est plus direct, il passe plus par de la sensibilité et tout ça. Il y a forcément un numéro enregistré quelque part. Qui va être redonné parce que qui va nous être envoyé parce que c'est une bête qui a mis bas à telle époque ou qui a tel âge, qui, enfin voilà, il y a tout un tas de données qui sont enregistrées après avec ce numéro, forcément, parce que peut-être qu'au départ ce sera juste une puce comme ça, mais forcément à l'avenir ça va devenir une banque de données, quoi. Et donc, après, on commence à trier les bêtes par rapport à cette banque de données. Voilà, on les regarde plus pareil, carrément, on les regarde plus même, je pense. Au bout d'un moment, tout ce qui nous servait pour reconnaître les bêtes, les petits signes, on les reconnaissait soit à des taches, soit à leurs allures, soit... à leur laine, à leur comportement, enfin, c'est tout ça qui est intéressant dans l'élevage et qui fait qu'on est proche des bêtes et qu'on arrive à bien les élever, et à nous aussi à avoir une vie quand même plutôt sympathique, quoi. Et bien tout ça, pour moi, avec la puce électronique, ça change, quoi. Ça va être effacé quelque part, on va plus pouvoir, on va être de moins en moins amené à s'en servir. puisqu'on a un numéro, parce qu'on a un appareil qu'on va pouvoir brancher, et ça nous dira que cette bête, elle est née telle année, elle a fait tant d'agneaux, elle a eu telle maladie. Voilà, donc, et une fois que ça s'est ouvert, bien sûr, on s'en sert, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment un passage à ne pas franchir, quoi, et c'est important. Parce que j'ai l'impression que je vais perdre tout un savoir-faire.
Sébastien Delpech, quand est-ce que vous avez entendu parler de pucer vos brebis la première fois? Vous vous souvenez?
Ouais, ça devait être 2005-2006. Et donc à l'époque, c'était prévu pour 2008. Et en fait, ça a été reporté une ou deux fois. Et donc c'est en place là depuis juillet 2010. Pour les agneaux et pour les brebis, on a 2 ans pour le faire. C'est-à-dire remplacer l'identification qui existe déjà, les boucles en plastique, par des boucles avec une puce électronique dedans.
Gérard Pagès.
Les réglementations sont de plus en plus strictes et de plus en plus systématiques. Tout ce qui est contrôle de la politique agricole commune maintenant se fait avec ce qu'on appelle la PAC graphique, c'est des photos aériennes. On peut compter les piquets, les clôtures, on peut voir les animaux sur les photos. Donc tout est de plus en plus resserré, on va dire, et c'est ça qui permet d'avoir les aides, enfin en tout cas, toutes les aides qui touchent la surface. Après, il y a des aides liées aux animaux, au nombre d'animaux et tout ça. Que ce soit dans l'élevage de brebis viande, dans l'élevage de vaches à viande, dans la culture de céréales, les aides PAC représentent entre 140 et 150% du revenu. C'est-à-dire qu'elle couvre le revenu plus une part des charges. L'idée, c'était que l'alimentation soit une arme au niveau exportation. Et donc, je crois que c'est les USA qui ont innové, malgré leurs discours libéraux, qui protègent énormément leur agriculture. Comme ça, on arrive sur le marché mondial avec des produits qui sont capables de rivaliser avec la production locale dans n'importe quel autre pays, notamment en Afrique. C'est une bonne manière de désigner l'agriculture locale. Et après, pour rattraper au niveau du revenu, eh bien, on aide les paysans de manière directe. En gros, le prix de l'agneau, il n'a pas augmenté en argent constant. Il n'a pas augmenté depuis 35 ans. Donc ça veut dire qu'il a été divisé entre 2 et 3 en argent constant. Et pour rattraper un petit peu, donc entre-temps, il y a énormément de gens qui ont arrêté, mais le peu qui reste, évidemment, ils sont complètement, y compris des systèmes autonomes, en vente directe, où il y a peu d'investissement, sont complètement dépendants des aides, ce qui n'est pas original. C'est-à-dire que ben voilà, la société aussi moderne, c'est une société de dépendance. C'est-à-dire, ben, on a vu, après il y a des systèmes d'aide et de dépendance qu'on pourrait qualifier systémique, de systématique, comme l'agriculture. Après, on a vu des choses plus au coup par coup. Par exemple, les sommes énormes qui ont été englouties dans les banques pour les aider après la crise économique. On sait qu'il y a des aides énormes pour l'exportation, hein, notamment au travers de systèmes comme la COFAS et compagnie. Il y a plein de... On est dans une société d'assistanat généralisé, quoi.
Donc dans cette société d'assistanat, vous, Gérard Pagès, et vous, Sébastien Delpech, vous avez néanmoins choisi de poursuivre votre activité d'élevage, une activité telle que vous la décriviez à l'instant, c'est-à-dire une activité où vous êtes le plus autonome possible, où vous faites de la vente directe, où vous ne dépendez pas d'une alimentation industrielle. Et pourtant, aujourd'hui, ce qui vous fait caler, ce qui vous fait tressaillir, c'est cette puce électronique qu'on veut vous faire poser sur l'oreille de chacun des agneaux qui vient de naître. Sébastien Delpech ?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder cette histoire de puce de manière isolée, il faut le relier au reste. Et donc voilà, c'est le sentiment, c'est que là où on pensait trouver un peu de liberté, un peu d'autonomie, et c'était vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, Et bien, là où on pensait trouver un peu de liberté et un peu d'autonomie, il se trouve qu'on pense que ça va être de plus en plus compliqué.
Malgré ce système que vous avez décrit, qui est déjà extrêmement pesant, ce système d'assistanat, comme vous l'appelez, il y avait encore des espaces d'autonomie et de liberté.
Oui. Bon, on n'est pas surveillé tous les jours. On organise notre journée comme on l'entend. Et puis on joue encore aujourd'hui la différence entre la réalité de tous les jours et les papiers, qu'on peut pas tout décrire dans des cases. Et donc on joue là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, on joue là-dessus.
Ce qui ne signifie pas pour autant que vous soyez des fraudeurs. La question, c'est pas celle de la fraude.
De toute manière, un chômeur qui va à Pôle emploi, d'entrée, c'est sa faute s'il n'a pas de travail. Je veux dire que le rapport à l'administration, aujourd'hui, c'est un rapport forcément de suspicion. Et nous, on ne fait pas exception à ça. Et voilà, c'est vrai que cette histoire de liberté, ça peut paraître curieux pour des gens qui ne sont pas dans l'agriculture, mais parce qu'il faut s'occuper des animaux le matin, le soir. Et puis il y a des fois des morts, il y a des malades, c'est toujours un peu un lien avec des choses difficiles, compliquées. Mais c'est quand même un endroit, un espace de liberté énorme. C'est-à-dire que s'occuper d'animaux, c'est un monde, c'est une immensité. L'autre jour, je suis allé chercher les brebis pour les tondre, et bien voilà, je ne sais pas ce qu'elles avaient. Elles étaient dingues, comme si elles étaient contentes de savoir ce qui leur arrivait, qu'elles allaient être débarrassées d'une toison, et du coup, ben voilà, avec le soleil qui arrive, bon voilà, ça c'est des choses, tu le regardes, tu l'apprécies, mais voilà, c'est quelque chose qui te nourrit, sur lequel tu peux pas mettre de mots, et peut-être heureusement, c'est ça qu'on vit nous, c'est cette espèce de monde, Et alors voilà, si on la puce, tout d'un coup, il y a une espèce de c'est pas un nouveau système d'identification, la puce électronique. C'est une intrusion de la machine ou de l'imaginaire de la machine dans les animaux, dans notre vie. Tout d'un coup, il y a une espèce de truc d'acier là, qui est énorme, qui est tout petit, mais qui est énorme. Une espèce de chose froide qui rentre dans nos quotidiens et qui nous sépare des animaux. Ça devient inacceptable, quoi. C'est toutes ces tendances-là à tout qui sont très proches de l'industrie sur les histoires de process et les mêmes démarches que les démarches ISO. Mais quand on est tous les jours avec des êtres vivants, et c'est un malaise, je pense, qu'on peut peut-être retrouver assez proche avec les gens qui travaillent dans la santé, dans le social. Eh bien, on peut pas le modéliser, ça. On va pas. Enfin, si, pour les rendez-vous, tout ça, dans les administrations, c'est modélisé, bien sûr. Mais c'est pas humain. C'est pas humain.
Sébastien Delpech.
Peut-être qu'avec les bêtes, c'est peut-être un peu trop. Ça nous touche peut-être un peu trop. Peut-être qu'on peut mieux l'expliquer, l'illustrer avec ces histoires de mesures agri-environnementales, par exemple. Ou dans les régions comme ici, qui ont été un peu épargnées par l'agriculture industrielle. En fait, il y a des aides qui nous sont des aides entre guillemets. Hein, qui nous sont donnés en contrepartie de cahiers des charges agri-environnementaux, où on nous dit tout ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit mettre les brebis, à quelle saison, quel nombre de brebis sur quel nombre d'hectares. Et on nous impose un calendrier de pâturage, et on doit tout noter, dans la logique industrielle, du process industriel, on doit tout noter, les dates, le nombre de brebis. Et donc voilà, ça c'est pour nous c'est quelque chose de très humiliant, de devoir en permanence noter ce que l'on fait et se justifier et être d'entrée de jeu suspect lors d'un contrôle, puisqu'évidemment c'est moyennant des aides. Et donc voilà, en fait, tous nos gestes, de plus en plus, sont modélisés à l'avance et donc sont contrôlables et contrôlés.
La question nous est venue, mais quand est-ce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que en fait on ne peut plus nous choisir et évaluer les risques de notre métier et ce que l'on veut faire là-dedans? Et est-ce que c'est pas une partie la plus importante du travail qui disparaît comme ça? Si à chaque fois qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait quelqu'un d'en haut qui décide la solution, qui est la même, pareil pour tout le monde. Et c'est par ce biais-là qu'on a fait le lien, en se disant, mais oui, mais dans d'autres situations au travail, c'est exactement ce qui se passe. On va dire comment est-ce qu'il faut enseigner, comment est-ce qu'il faut résoudre les cas difficiles, qui sont, eux, déjà bien établis. Et donc, le plus intéressant du travail, il s'en va, parce que le plus intéressant du travail, c'est de décider quoi faire.
Aurélien Berlin ?
En quelque sorte aussi, on s'est rendu compte à cette occasion-là, à quel point, notamment compte tenu du... des réactions qu'il y avait par rapport à ces questions-là, à quel point en fait les paysans, qui avaient été longtemps donc une image d'une profession qui était vraiment à l'opposé de la fonction publique, par exemple, les paysans c'était des gens indépendants, voilà, qui sont pas salariés, qui vivent d'eux-mêmes, etc. Et là en fait on se rendait compte aujourd'hui que donc bon, il y a plus de paysans, il y a plus des agriculteurs, et ces agriculteurs en fait sont quasiment des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'appliquer des mesures sanitaires, etc., même complètement absurdes, là en l'occurrence complètement absurdes, ils se retrouvent en position d'exécutant de l'État. Et il y a eu un moment très, très chouette dans une discussion publique où un intervenant, enfin quelqu'un qui écoutait donc ce qu'on avait à dire sur la FCO, à un moment donné, pendant la discussion, a dit mais qui est-ce qui les possède, les brebis, en fin de compte? Et en effet... Quand on voit ce type d'obligation, on peut se demander si le véritable propriétaire des brebis, c'est pas l'État qui concède la garde des brebis à des fonctionnaires qui sont des paysans payés sous forme de primes. Et que là, il y a quand même voilà, un problème, puisque aujourd'hui, les gens qui sont arrivés dans le métier dans les années 70-80, c'était souvent aussi par envie de vivre dans un monde moins normé, moins de pas devenir fonctionnaire, notamment pas devenir salarié, pas devenir fonctionnaire, qui choisissaient ce métier. Et ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus exercer leur métier tel qu'ils l'entendent.
Je suis assez frappée par le vocabulaire que vous employez les uns et les autres. Vous parlez, Aurélien Berland, de fonctionnaires. Des éleveurs ont beaucoup parlé de système industriel. Il me semble que ni l'un ni l'autre de ces mots ne rendent exactement compte de la situation. Ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais je trouve difficile de trouver le mot exact qui définirait ce que vous êtes en train de souligner les uns et les autres, ce rapport au travail qui est général, qui n'est pas seulement celui des agriculteurs, et qui est plus, me semble-t-il, du côté d'une forme bureaucratique tatillonne et paperassière, enfin, je ne sais pas, voilà, je ne trouve pas plus les mots.
Mais je pense quand même qu'en effet, l'introduction par exemple des puces dans les boucles des brebis, ça transformera assez vite qu'en effet, une bergerie en une usine à viande, à lait, à fromage ou tout ce qu'on veut, gérée par ordinateur comme n'importe quelle entreprise actuelle. Mais là, en effet, donc là, il y a un côté, quelque chose qui va dans un sens industriel. Après, pour le travail, je sais que le mot industrie, avant d'avoir signifié le zèle, l'application au travail, le côté industrieux des gens qui travaillent, ça désignait au Moyen-Âge, dans la langue des moines, le travail mortifère. C'est-à-dire, pour les moines, au Moyen-Âge, il y avait l'idée qu'il fallait tout faire pour la plus grande gloire de Dieu. Et donc, ça impliquait de ne pas prendre de plaisir ici-bas. Il fallait être dans une vie de mortification, donc on se coupait du monde, on vivait dans des monastères, on se soumettait à un règlement très, 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 très tatillon, et on travaillait non pas pour accumuler de l'argent, pour y prendre du plaisir, ou pour gagner des sous, pour en faire du plaisir, non pas du tout, et il fallait surtout, et encore pire, il fallait même pas prendre de plaisir en travaillant. Tout le côté de travail communautaire paysan, avec des gens qui chantent, des chansons pour accompagner les mouvements, etc., tout ça disparaissait dans les monastères. Il fallait que le moment du travail soit un moment de mortification comme n'importe quel autre, la mortification de la créature face face à Dieu. Et donc, pour nommer ce travail mortifère, les moines ont construit le concept d'industrie.
Et de fait, s'il reste encore du plaisir chez les petits éleveurs, il a énormément disparu du monde du travail, et les chansons que vous évoquiez ont disparu dans les 40 dernières années complètement du monde du travail, alors qu'elles existaient encore au milieu du XXe siècle. Je ne pense pas non plus que ça a été remplacé par de la souffrance, curieusement, mais plus par une sorte d'anesthésie générale. Michela Di Carlo.
C'est sans doute vrai que c'est avant tout une sorte d'anesthésie générale, mais après c'est toujours un terrain glissant. Est-ce qu'il y a de la souffrance ou pas ? La souffrance c'est quelque chose de très personnel. Elle n'est pas forcément, elle ne s'exprime pas forcément physiquement. Il y a peut-être beaucoup de souffrance psychique qui prend peut-être différentes formes. On ne peut pas dire, effectivement, et c'est bien ça, cela le problème, que cette souffrance psychique, elle vient de la manière dans laquelle on travaille. Mais on peut aussi le penser, et ce n'est pas insensé de le penser, qu'il y a moins de satisfaction personnelle, et de ce point de vue-là, peut-être une perte de sens. Et ça, c'est de la souffrance pour un individu.
Babette Védois, vous avez des vaches. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre ce collectif Faut pas pucer?
Je sais pas trop, ça s'est fait forcément comme toujours un peu par hasard. J'ai des vaches et j'avais commencé à refuser la vaccination obligatoire pour la FCO. Si on fait un pas de côté, on s'aperçoit, on regarde le système et enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Je me suis dit, mais ils me demandent de ça, mais pourquoi? Mais je sais pas comment dire. Il y a des choses absurdes qui ressortent. Il y a des discours, les gens vont nous donner un argumentaire qui paraît stupide. Si on ne demande pas cet argumentaire, on ne s'en aperçoit pas. Mais là, si on questionne, c'était bizarre.
Mais quel lien est-ce que vous faites entre ces questions sanitaires, vacciner, traiter la maladie de telle ou telle façon, et l'histoire de la puce électronique qui, elle, n'est pas une question de santé, mais plus une question de contrôle?
Et oui, justement, c'est que là, je me suis dit, enfin, on m'oblige trop, quoi. On m'oblige à faire plein de choses, mais pourquoi on veut me faire ça? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Je perds ma liberté, ça, c'est sûr, mais enfin, j'ai rien en échange. Et puis, j'en avais marre qu'on me dise ce que j'avais à faire. Voilà. J'ai déjà suffisamment à réfléchir pour faire ce que j'ai à faire, sans qu'on me rajoute des contraintes qui me paraissent stupides, avec toujours la menace de faire sauter nos primes qui nous permettent de vivre. Et là, je me dis, si demain, ils demandent de peindre les bêtes en bleu, parce que sinon, on nous fait sauter nos primes, on va se retrouver avec des animaux bleus partout. Enfin, ça devient absurde.
C'est présenté souvent comme justement un allègement du travail, quelque chose qui vous permet d'avoir la tête plus libre, de gérer vos vaches plus tranquillement.
Ben, moi, gérer mes vaches, m'occuper de mes vaches tranquillement, c'est quand je suis avec elles, qu'il n'y a pas de bruit. Par exemple, donner à manger sans qu'il y ait le tracteur qui fonctionne. Et par contre, tout ce qui est plus ordinateur, mais ça, bon, c'est parce que je le ressens comme ça, c'est pas vraiment réfléchi. Moi, ça me porte souci à la limite. Pour moi, c'est pas un allègement, au contraire, ça me prend la tête. Là. Enfin, si on me dit qu'il faut après regarder, après avoir... Bien sûr, il restera toujours un peu de métier avec les bêtes, c'est pas non plus dire n'importe quoi, mais... Si après, il faut toujours regarder ce que ça fait, aller rentrer des choses dans l'ordinateur. Et que, moi, ça me fatigue avant de commencer. Ouais.
Gérard Pagès.
La puce électronique, ce n'est pas seulement une nouvelle façon, parce qu'il y en a eu d'autres. Au début, on tatouait l'oreille. Après, on a eu les pendentifs. Enfin, il y a eu plein de choses. Ce n'est pas la façon la plus infalsifiable. On peut falsifier très facilement des puces. Donc ça ne correspond pas à une volonté de maîtrise totale, en tout cas dans le sens où ça serait infalsifiable. Le plus infalsifiable qu'on connaît, c'est un tatouage. C'est simple à faire, ce n'est pas très douloureux, dans l'oreille d'une brebis, par exemple. Mais ça peut se lire, ce n'est pas facile. Il faut souvent une lampe de poche pour mettre dans l'oreille, pour lire à contre-jour, tout ça. Donc le but, c'est de faire rentrer vraiment l'animal dans un processus informatique. Un processus informatique, c'est quoi? C'est un programme avec avec des options, des scénarios. Il y a un scénario qui est fait. Et le scénario, évidemment, il y a plusieurs branches, mais elles sont déjà décidées. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui sont déjà posées. Ça va être ceci, ceci ou cela.
Mais c'est ce que vous appelez la modélisation ?
C'est ça, ouais. Ça, tout ça est modélisé dans un... Et du coup, ça, c'est la porte ouverte. Alors, moi, je ne sais pas trop comment dans un premier temps, mais c'est sûr que ça va être la porte ouverte à une informatisation générale. Ce qui va se passer très rapidement, c'est qu'en temps réel, au niveau de l'État et au niveau de tous les États européens qui ont choisi le puçage, on saura exactement le nombre de bêtes qu'il y a et où elles sont. Et donc à ce moment-là, évidemment, on peut beaucoup plus contrôler. Mais ce n'est pas le seul problème du contrôle, c'est de rendre les animaux comme un flux. On parle, dans les textes techniques, on parle de minerai viande.
Minerai ?
De minerai viande. C'est-à-dire qu'on utilise, on considère les animaux. D'abord, ce n'est pas de la viande des animaux. C'est vrai que des fois, on les tue, mais moi, je n'élève pas de la viande, j'élève des animaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on considère les animaux comme quelque chose dans lequel on peut puiser pour un besoin, l'alimentation. Voilà, c'est pour ça qu'on y donne ce nom. Et donc, il y a l'idée de flux, de continuité, et tout ça, pour le gérer, c'est comme un flux de personnes dans le métro, comme un inventaire permanent et de manière, par exemple, la puce qui va être appliquée à beaucoup d'objets, peut-être même la totalité des objets qu'on va acheter, ça va permettre de gérer des inventaires vachement serrés, c'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle un flux tendu, quoi. Il n'y aura plus du tout de stock parce que les stocks, ça coûte très cher. Et on saura en permanence où et quoi et où ça va. Et donc, qui achète, et donc le suivi pour la publicité, pour tout ça, quoi.
Oui, Sébastien Delpech.
C'est la même puce, c'est la puce RFID, c'est la même qui est utilisée pour le pass Navigo dans le métro parisien. C'est la même qui sera appliquée sur les oreilles des agneaux et qui sera lue à l'abattoir quand on amènera les lots d'agneaux.
Justement, j'étais en train de me dire que vous parlez de l'introduction des animaux dans cette logique informatique, mais c'est les animaux et leurs éleveurs qui rentrent dans ce flux. Gérard Pagès.
Oui, c'est ça qui nous est insupportable. C'est exactement ça, c'est-à-dire que du coup, tous les gestes sont... De plus en plus de gestes sont prévus et sont normalisés. Et on ne tous les espaces où il s'agit d'apprécier la situation et de choisir en fonction de nos compétences, de la manière, de l'état dans lequel on s'est levé le matin aussi, et puis de la manière dont on réagit. Et bien tous ces endroits-là vont petit à petit s'amenuisent. Et du coup, on en est rendu à avoir de plus en plus des gestes automatiques, quoi. C'est-à-dire les gestes sur lesquels il n'y a pas de valeur d'appréciation. Voilà, et nous, finalement, eh bien, la boucle est bouclée, quoi. On devient aussi... en tout cas, on nous exige des comportements de machine.
Sébastien Delpech.
Là, j'ai récemment... Je suis récemment tombé sur un travail de chercheur de l'INRA en collaboration avec des bergers et des éleveurs qui en fait modélisent la garde d'un troupeau de brebis en montagne. Donc ils essayent de modéliser, de définir le comportement de la brebis, le comportement du berger dans telle ou telle situation, jusque dans ses moindres détails. Et quand on lit ça, moi je l'ai lu, c'est effrayant parce que c'est tout est vrai, puisqu'évidemment ce sont des bergers qui ont vidé leur sac. Tout est vrai, tout est rentré dans la boîte, et maintenant il ne reste plus qu'une chose, c'est de l'appliquer. Ça veut dire que notre travail devient contrôlable, encore une fois, dans ses moindres détails.
Célia Isoard, vous n'êtes pas éleveuse. Et néanmoins, vous faites partie, vous aussi, de ce collectif?
Oui, alors moi, je suis très inquiète de l'avancée de l'électronique, le fait qu'on multiplie les objets électroniques dans ce monde en général. Et les puces électroniques sur les bêtes, ça en fait partie. C'est un aspect de ça et un aspect particulièrement obscène, puisque quand on voit les troupeaux ici et quand on imagine le fait de les équiper d'un micro-ordinateur, on voit tout de suite qu'il y a deux mondes qui s'affrontent dans cet équipement.
Mais qu'est-ce qui vous inquiète dans l'électronique?
Je pense qu'il y a un souci, il y a un gros problème écologique. C'est paradoxal parce que on n'a jamais autant parlé de réduire la pollution, de faire attention à ce qu'on met dans l'environnement, etc. Mais bizarrement, quand il s'agit d'électronique et donc d'informatique et donc d'Internet, tous ces systèmes qui sont reliés, puisque les puces électroniques, c'est quand même pour lier les objets du monde avec des systèmes informatiques, de les mettre en ligne, etc. Mais quand il s'agit d'Internet, quand il s'agit de ce matériel-là, on oublie la matérialité, on oublie que c'est des choses, qu'il y a des matériaux derrière, qu'il y a toute une chaîne de production. On a tendance à s'imaginer quelque chose de virtuel. Donc il y a ça. Et il y a aussi la manière dont on vit, c'est-à-dire comment on travaille, comment on fait les choses, comment on communique. Moi, il me semble que le fait de multiplier les appareils de gestion, c'est-à-dire de multiplier les systèmes qui vont produire des chiffres sur le réel, qui vont ensuite manipuler ces chiffres grâce à l'informatique, ça vise à restituer une forme de... Et c'est une tentative désespérée pour essayer de contrôler un système qui est réellement incontrôlable. Puisque là, on s'aperçoit bien que le capitalisme mondialisé, industriel, c'est intenable, qu'on est dans une situation que personne ne peut réellement maîtriser, que c'est totalement ingérable. Et au moment où c'est ingérable, on va multiplier des systèmes qui vont donner l'impression aux administrateurs, aux gestionnaires, qui peuvent avoir une vision panoptique, une sorte de vision instantanée à un temps T du monde tel qu'il est, par exemple du cheptel en France tel qu'il est à partir d'un ordinateur.
Le système est incontrôlable, mais les gens et les animaux sont contrôlés.
Oui, mais les puces électroniques, c'est précisément ça. C'est... Il y a aussi l'idée d'essayer de rationaliser les flux de bêtes, le circuit mondial, la grosse industrie. Et on voit bien, à travers toutes les crises sanitaires qu'il y a eu, et c'est quand même un des grands arguments de vente de la puce électronique, qu'en fait, c'est ingérable de faire circuler des bêtes, d'avoir des produits qui circulent de cette manière-là. Donc c'est toujours ce paradoxe. Plus on crée de l'incontrôlable, plus on veut instituer du contrôle. Et ça ne marche pas, mais c'est comme l'anorexie, c'est-à-dire il n'y en a jamais assez. On veut toujours en mettre plus. On veut toujours. On pense qu'on va toujours essayer de serrer la vis un peu plus.
Tout de même, Célia Isoard, je vous ai fait remarquer que dans ce système incontrôlable, il y avait un contrôle de plus en plus fort qui s'exerçait sur les humains et sur les animaux. Et d'ailleurs sur le végétal, et d'ailleurs sur les paysages, et d'ailleurs pratiquement sur tout.
Oui, d'ailleurs, quand on parle des puces électroniques et de la multiplication des traceurs en général, des fichiers, on parle beaucoup de surveillance, et c'est vrai, c'est là, la surveillance, elle est réelle, on a les moyens de croiser toutes sortes d'informations. Et ça, c'est inédit, on n'a jamais vécu ça à ce point-là. Mais il me semble que le contrôle, il se situe à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on produit de l'enfermement, mais c'est surtout de l'enfermement dans l'imaginaire, c'est-à-dire que... En instaurant cette espèce de cartographie dont je parle, en essayant d'avoir une vision gestionnaire avec tous ces chiffres qui seraient censés traduire la réalité et la maîtriser, on élimine le point de vue subjectif. On élimine le point de vue de l'individu et l'individu ne s'autorise plus à penser, à juger et même à agir en dehors de ces chiffres.
Thank you.
est terrible, il me semble, c'est que dans tout ce que vous racontez là, on entend en écho la voix de tous ceux qui pensent et qui vont dire « Eh bien, quel est le problème ? Je n'ai rien à me reprocher. Donc, c'est pas grave qu'on repère comme ça et qu'on modélise tous mes gestes. » Sébastien Delpech ?
Mais si on s'en tient à cette histoire d'identification électronique des brebis, c'est aussi cette histoire de traçabilité. Pour moi, ça ne fait qu'accompagner le développement de l'agriculture industrielle. C'est un cache-misère, finalement. Pendant longtemps, ça a été le mot traçabilité n'était connu et utilisé que par les cadres de l'industrie. La traçabilité, elle est née de toute façon dans le secteur industriel et dans le secteur de la distribution, de la grande distribution, mais il y a longtemps, aux États-Unis, au début du XXe.
C'est-à-dire au moment où finalement on a dissocié les lieux de production des lieux de consommation.
Voilà. Au moment où on commençait à organiser la production de masse et la consommation de masse. Et donc pendant longtemps, ça n'a été, ce mot-là, qu'une histoire de cadre de l'industrie. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années, tout le monde en parle, tout le monde sait ce que c'est. Et en plus, tout le monde en parle de manière positive. Et du coup, la traçabilité se trouve tout d'un coup vernie d'une éthique qu'elle n'a jamais eu la prétention d'avoir.
Comme si du simple fait qu'on sait d'où vient tel morceau de viande acheté sous cellophane, on a l'assurance, la garantie que ce morceau de viande est bon.
Ouais, quand on ne maîtrise plus rien de nos conditions d'existence, eh ben, ce genre de petites choses, ça suffit à nous soulager l'esprit, quoi. On a l'impression de savoir ce qu'on mange, on a l'impression de maîtriser un peu quelque chose, ce qui est complètement faux. Ça soulage l'esprit, mais rien de plus, quoi. Et donc, cette histoire de traçabilité égale qualité et donc vécue de manière positive, moi, je pense que le développement de la consommation responsable et de la filière bio n'est pas étrangère à ce phénomène.
Vous êtes d'accord avec ça, Gérard Pagès ? Vous êtes l'un et l'autre éleveur en bio, donc vous auriez contribué à ce phénomène ?
La traçabilité, c'est de savoir exactement d'où vient la viande, le produit. Donc, quand la viande, c'est de la merde, on est très avancé de savoir d'où elle vient. D'autant plus que ça sert aussi au moins à une autre chose, c'est quand il y a un problème, eh bien, on trouve très vite le responsable. C'est pas pour ça qu'on va changer la façon de faire des céréales ou d'élever des bêtes, sûrement pas. Mais on a un problème et du coup, on a un responsable et du coup, tout le monde est content. On peut imaginer qu'au marché de Carmaux, par exemple, dans les années, 50 ou 60, ou peut-être un peu avant, ici, l'agriculture industrielle, elle est venue assez tard, après la guerre. Donc, il y a quelqu'un qui a amené des légumes. Un monsieur qui venait tout le temps au marché a amené des poireaux. Et il a amené des poireaux empoisonnés. Une année, à un moment donné, une récolte, le monsieur, il a amené des poireaux empoisonnés, qui étaient farcis de pesticides et d'engrais. Mais sur son étal, il n'a pas mis poireaux empoisonnés, il a mis poireaux. Et donc, du coup, le poireau, qui existe depuis des millénaires, a changé. Mais le nom n'a pas changé. Face à ça, la seule solution qu'ont trouvé les gens qui ont voulu continuer à faire des choses de qualité, on pensait qu'il était, à ce moment-là, et ça on ne peut pas trop le discuter, la seule manière, c'était eux de se différencier. Et c'était vraisemblablement la seule manière qui existait à ce moment-là, je ne sais pas, j'y étais pas. Et donc ces gens-là ont commencé à parler de poireaux naturels, ou ensuite de poireaux bio. Et ils ont trouvé nécessaire, et ça c'est aussi assez indiscutable, de se faire un cahier des charges, voilà, parce que pour se différencier, puisque le monde fait que on désigne d'un même mot une chose différente et que nous on veut pas que ça soit tel, il faut commencer à batailler d'une manière différente. Et donc du coup ils ont fait un cahier des charges, donc après ils ont fait des autocontrôles, des contrôles Voilà, voilà comment ça s'est passé. Voilà sur les choses sur lesquelles nous, on s'est appuyés. Déjà, des tas de gens qui ont bossé là-dedans, qui nous ont nourris intellectuellement. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on est incapables de faire autre chose que l'agriculture biologique. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que ce système-là a fait qu'ils ont complètement popularisé l'idée de traçabilité. C'est-à-dire que c'était même le fond même, le principe même de leur système de défense, c'était la traçabilité. Et ces gens-là font partie aussi de tout un tas de schémas de pensée. Enfin ces gens-là pensent que la seule manière de s'en sortir, c'est un petit peu plus de règlement, un petit peu plus de contrôle, si peu qu'il soit citoyen ou alternatif. Mais on ne peut pas imaginer une société qui soit basée sur des contrôles systématiques et de plus en plus fous. C'est-à-dire que quand nous, on dit on en a marre d'être contrôlé, on peut entendre, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Bien sûr, mais le fait d'être contrôlé systématique comme ça, est-ce qu'il ne pourrait pas s'établir autre chose qui s'appelle la confiance, par exemple ? Est-ce que ça, c'est une donnée complètement démodée ? Est-ce qu'on peut imaginer un monde qui serait sans cesse liberticide au nom de la régulation des excès ? Voilà. Ça, c'est un monde de dingue. C'est un monde dans lequel la puce a très bien sa place. Sur des idées de traçabilité. Donc tant qu'on ne remettra pas en cause fondamentalement des manières de fonctionner, le fait qu'il y a 3%, un peu moins de 3% des gens qui produisent à manger pour la totalité des habitants de l'État français, tant qu'on ne voudra pas s'envoyer ça, il n'y a aucune raison. Je veux dire, l'agriculture, elle va changer, et les relations qu'on a avec la nature et tout ça vont changer si on change tout ce qui est autour, c'est-à-dire la manière dont on est ensemble.
Sébastien Delpech.
Ouais, souvent, on nous dit, quand on parle de ces histoires de société où la plus grande partie des gens sous-traitent le problème de la subsistance parmi d'autres, hein, on nous dit ouais, mais c'est une impasse que vous dites. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que tout le monde retourne à la terre, tout le monde retourne à la campagne, mais c'est pas possible. Le problème, c'est qu'on peut très bien retourner l'impasse et dire que ce n'est pas possible que l'ensemble de la population dans les mégapoles d'aujourd'hui mange bio. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne sera jamais.
Je crois aussi qu'on est dans un ensemble de sous-traitance un peu généralisé. Et souvent, on sous-traite l'alimentation à une petite partie de gens qui la font. On sous-traite l'éducation à l'éducation nationale. Et on trouve ça, en général, très bien. On sous-traite les vieux aux maisons de retraite, on sous-traite notre solidarité à la sécurité sociale. On trouve toujours ça très bien, et c'est sûrement pas plus mal. Mais le fait qu'il y ait de la sous-traitance, il ne faut pas s'étonner s'il y a des excès. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose avec un rendu, une qualité, et on ne veut pas s'en occuper. C'est ça la sous-traitance. Et du coup, les gens qui le font, forcément, ils font à leur sauce si personne ne regarde. Par exemple, quand on parle de traçabilité, pour revenir sur la traçabilité et les labels, ça c'est une forme de sous-traitance. C'est-à-dire la confiance, on ne l'a pas, parce que les gens à qui on achète les produits sont loin, des fois inconnus, et donc on sous-traite la confiance à une marque, le label. Il y a, de toute manière, il y a de l'élec en qualité constante et en volume tant qu'on veut. Il y a de l'eau, pareil, l'entreprise s'appelle un robinet. Et il y a la viande d'un côté. Tout ça arrive d'un coup. Du coup, on efface tout. On efface tout l'humain qu'il y a derrière, la difficulté d'avoir de l'électricité. D'abord, d'où elle provient, avec des façons de fonctionner, de fabriquer l'électricité qui ne sont peut-être pas tout à fait extraordinaires. Des façons de produire et d'obtenir de la viande qui ne sont pas tout à fait extraordinaires, et tout un tas de choses comme ça. Et puis comme ça, on peut s'occuper, soi-disant, de la vraie vie.
Mais ça a été considéré comme une libération de pouvoir s'extraire des nécessités de la terre.
Bah, bien sûr, mais parce que la terre, elle est très contraignante, on ne peut pas s'éloigner. S'il faut se faire à manger, s'il faut avoir un potager, il faut être là, il faut l'arroser. Sauf que, de manière très paradoxale, quand on travaille dans le travail salarié, on ne peut pas s'éloigner non plus, parce qu'on peut avoir 2 semaines de vacances. Et ce qui était vraiment une libération là-dedans, c'est que les gens travaillaient la terre dans des conditions pitoyables. C'est que la terre n'appartenait pas à tout le monde. Et c'est bien ça la question qui était pour les époques passées. C'est que les pauvres travaillaient pour quelqu'un d'autre et ils devaient faire le double du travail. C'était aussi l'inégalité. Après, bien sûr, il y a les aléas de la nature, mais ça, on voit bien qu'on ne s'en débarrasse pas. Ou peut-être on en crée des nouveaux, mais les aléas, on ne peut pas les effacer. Et ce rêve-là, finalement, il est mortifère de penser qu'on pourra mettre de côté tout ça.
Aurélien Berland ?
À propos de la libération, oui, en effet, les progrès du monde moderne ont donné le sentiment de se libérer d'un certain nombre de contraintes, de servitudes, de nécessités. Mais voilà, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce qui est pour nous en fait important dans la liberté. Et puis dès qu'on s'interroge un petit peu sur cette question-là, on voit qu'en effet, la liberté, il y a toujours eu d'un côté les contraintes de la nature et de l'autre côté les contraintes sociales. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le fait d'être astreint à un travail pénible, à la mort aussi, à la possibilité de la maladie et de la mort, à la douleur de l'enfantement pour les femmes. Ce sont les 3 malédictions divines qui pèsent sur l'humanité. Et puis il y avait les contraintes sociales, la domination, etc. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation particulière où, en fait, la liberté qu'on invoque pour le fameux monde libre dans lequel on vit, c'est quoi ? C'est la liberté des malédictions divines. En fin de compte, c'est la liberté, il faudrait appeler ça la délivrance. Il n'y a pas eu de... On ne s'est pas libéré de quoi que ce soit, on s'est délivré du poids de la condition humaine. Mais on ne s'est pas émancipé des contraintes sociales. C'est-à-dire que la domination sociale est toujours présente, peut-être. Elle n'a jamais été aussi forte qu'avant dans les états actuels, la contrainte. Mais on a été délivré en effet de la pénibilité du travail physique, d'une partie des douleurs de l'enfantement, et on a réussi à éloigner la mort. Il y a le rêve de réussir à la dépasser chez les transhumanistes. Mais voilà, et nous, par exemple, nous on pense que la liberté qui vaut le coup d'être défendue, c'est la liberté sociale, la liberté à l'égard de la domination, des contraintes sociales, c'est là-dessus qu'on peut agir. Et pour se libérer de ce point de vue-là, ça implique de réévaluer le poids des nécessités naturelles et de se dire qu'en fait, c'est une chance. Moi, depuis que j'ai cessé le travail dans lequel j'étais auparavant, où j'étais fonctionnaire, etc., en ville, et où je découvre la vie à la campagne, la vie avec les bêtes, le fait de planter et de récolter de quoi manger, j'ai vécu ça comme une libération, mais infiniment plus intéressante que celle de pouvoir aller tous les jours au supermarché avec mon argent de fonctionnaire.
Voilà, le collectif Faut pas pucer a écrit plusieurs textes que vous retrouverez sur notre site. Il y a également un appel à créer des discussions en tout lieu et sur toutes ces questions relatives au puçage électronique. Notre émission, vous savez que vous pouvez la télécharger pendant 15 jours sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez la revue de web hebdomadaire. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Stéphane Touvenin, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.